Bonjour à tous, il est midi. Et comme chaque midi sur France Culture, dans un instant, la première partie de la Grande Table, mais tout de suite, les titres du journal de 12h30, présentés par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Les cérémonies pour célébrer le centenaire de la bataille de la Somme, la plus meurtrière de la Grande Guerre, ont commencé ce matin, 8 jours après le Brexit. François Hollande y a retrouvé la famille royale britannique, ainsi que le Premier ministre David Cameron. Reportage tout à l'heure avec Laurence Perron, commentaire de Catherine Dutu. La Slovaquie prend la tête de la présidence tournante de l'Union européenne aujourd'hui. Le Premier ministre Roberto Fico assure que les décisions cruciales sur l'avenir de l'Europe ne peuvent pas être définies à 2 ou 3 États membres, ni même par les États fondateurs de l'Union. En France, Nicolas Sarkozy soumet demain à un Conseil national des Républicains le projet de son parti pour 2017. Requinqué par une progression continue dans les sondages qui scrutent la primaire à droite, l'ancien chef de l'État ne devrait pas tarder maintenant à se déclarer candidat. Pour lutter contre la pollution de l'air, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a décidé des mesures de restriction automobile. À partir d'aujourd'hui, donc, les voitures essence ou diesel immatriculées avant le 1er janvier 1997 sont interdites de circulation en semaine de 8h à 20h dans Paris. Donc c'est un dossier qui sera suivi pour nous par Véronique Robérot. Notre invité, ce sera le politologue Denis Jambard, avec qui on parlera du Brexit et de la politique française, évidemment. Voilà pour les titres. C'est à vous, Caroline Brouet, la grande table un peu spéciale.
Je vais dire voilà aussi, Antoine, merci. C'est Antoine Mercier et Antoine Mercier d'ailleurs aussi. C'est une émission un peu particulière aujourd'hui, car en effet, c'est la dernière et je retrouve, je le sens bien, la vulnérabilité de la première. La dernière parce que c'est la dernière de la saison, mais c'est aussi la dernière pour moi, car j'ai choisi, je dis bien j'ai choisi, nul besoin d'envoyer des mails de récrimination à la direction, sauf si vous êtes content, bien sûr. J'ai choisi de lever le pied après ces 6 années fabuleuses pour moi et j'espère pour vous, de cette émission créée de toutes pièces en 2010, d'abord avec l'ami Hervé Gardette, puis continuée seule pendant 5 ans. C'est pourquoi nous vous proposons, pour finir en beauté, un florilège de quelques-uns des grands moments de la Grande Table centrés sur les artistes. Alors pour commencer, souvenez-vous, c'était un 30 août.
La Grande Table.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de la mi-journée sur France Culture, un rendez-vous qui succède à Tout Arrive, le magazine d'Arnaud Laporte. Arnaud que vous pourrez désormais écouter dans Radio Libre tous les samedis de 15h30 à 17h avec un grand invité et de la musique live.
Alors la Grande Table qui reprend donc le flambeau transmis par de vénérables anciens, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un rendez-vous dédié à la culture, à la création artistique sous toutes ses formes, où il sera question aussi bien de cinéma que de musique, de littérature que de danse, de spectacles, d'art, de cultures urbaines et de bien d'autres choses encore. La Grande Table, magazine éclectique donc, et subjectif. Il s'agira pour nous de partager nos coups de cœur, de temps en temps aussi nos coups de griffe, de vous informer, vous guider, vous donner envie et, oserais-je le dire, Caroline, vous faire plaisir.
Ce générique des Chinese Men a ensuite changé. Il est devenu celui que vous connaissez désormais, Lilies of the Valley par Yoon Mi-yake, extrait d'un spectacle de Pina Bausch. Un générique qui d'ailleurs a inspiré quelques artistes musiciens comme Didier Lockwood et Vincent Segal. « Le violoncelle, l'instrument sans doute le plus proche de la voix, parce que oui, la radio, c'est d'abord des voix. Et à la grande table, nous en avons reçu plusieurs, des grandes voix célèbres, d'Isabelle Huppert à Jesse Norman, de Toni Morrison à William Christie, et des voix moins connues mais qui nous ont chavirés, comme la chanteuse Yoon Soon Na ou Cécile McLaurin-Salvant qui faisait sa première apparition à France Culture, tout comme l'extraordinaire Benjamin Clementine, Patti Smith qui nous a donné un merveilleux cadeau et l'actrice Fanny Ardant.
Moi, j'essaie toujours, en tant qu'actrice, de mes personnages, même si les personnages ne me ressemblent pas. Une fois que je les ai acceptés, c'est parce que je les aimais. Et en les aimant, j'essayais toujours d'être au plus près d'eux-mêmes. Mais justement, je pense que la distorsion entre l'actrice et la personne, c'est peut-être pour ça qu'on peut finir dans un asile de fous, n'a rien à voir. Au contraire, je pense que quand on est acteur, il faut éviter de mettre du noir, sinon on brouille les choses. On ne peut pas être comme on est dans la vie. Et dans la vie, on se laisse aller.
La voix que vous avez, comment vous la définiriez? Quelle couleur elle a pour vous?
Alors, c'est assez difficile à dire. En tout cas, je sais quel son j'aimerais avoir et celui sur lequel je travaille. Pour moi, dans ma tête, j'ai une image, en fait, qui est peut-être assez bizarre, mais c'est l'image d'un espèce de d'une boule ronde, chaude, en bois. Et c'est quelque chose, j'essaie de me rapprocher de cette idée-là. D'avoir une voix chaleureuse et puis aussi de pas forcément chercher non plus à avoir la voix la plus propre ou la plus jolie, mais de pouvoir rien qu'avec mon timbre de pouvoir évoquer plusieurs émotions comme le faisaient certaines de mes chanteuses préférées.
Patti Smith, la voix que vous avez vient de très loin, de très bas. Je ne sais pas dans quel sentiment vous êtes là en ce moment, mais est-ce que vous nous feriez l'immense cadeau de, je ne vais pas dire chanter, ce serait beaucoup trop, mais fredonner quelque chose.
I was a wing in heaven blue, and on the ocean soared over Spain, and I was free. I needed nobody. It was beautiful. It was beautiful. And if there's one thing could do for you, you'd be a wing in heaven blue.
I'm still very, very shocked.
Vous savez, je suis encore totalement sous le choc
I can sing.
Du fait que je puisse chanter.
Because when I was, for example, playing solo piano.
Vous savez, par exemple, quand je joue de la musique classique au piano, Eric Satie,
I was always humming. I was doing
Vous savez, je chantonnais, la bouche fermée.
I didn't have the passion to sing.
Mais je n'avais pas la passion du chant.
I was just peaceful with the piano.
J'étais tranquille
playing
avec le piano.
Piano, you know?
Je jouais du piano.
But eventually,
mais finalement,
when I came to Paris,
quand je suis arrivé à Paris,
19 years old,
j'avais 19 ans.
Now,
maintenant,
didn't play piano anymore.
Là, je ne jouais plus de piano. Mais je me suis dit, je vais essayer de chanter. Essayer de chanter.
Et
je n'ai pas vraiment réfléchi. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que j'ai une voix de chanteur. J'étais simplement dans une situation pour pouvoir m'exprimer. M'exprimer.
Since I was in a position to express myself,
et puis, puisque je suis en situation de pouvoir m'exprimer,
I had no choice.
J'avais pas le choix.
And so I sang out.
Donc voilà, j'ai chanté.
In fact, when I sing out, I feel
en
like
fait,
I'm,
quand je
like
chante,
shouting.
C'est comme si je criais.
I'm expressing myself.
Je m'exprime.
You know? I don't consider
myself comprenez
a singer.
Je ne me considère pas comme un chanteur.
So, singing really started.
Donc, le chant a vraiment commencé à ce moment-là, à Paris.
I remember walking down the A406 holding bags of mother-sent cornflakes, guessing somebody might have noticed a little boy, big head, small ears.
Wow.
Making a bell out through a Sunday mist. Sure, we've all been there, done it. Prepare a little time to reminisce on all that eventually falls into nothingness. Oh, all will be gone.
Bon, je dois le confesser, à entendre toutes ces voix, à moi aussi, il est arrivé de pousser la chansonnette en relevant le pari de l'équipe qui m'avait mise au défi de le faire au micro, en direct, devant un immense compositeur de films, Vladimir Cosma. Non, non. Bonjour Vladimir Koskma.
Bonjour Caroline, je vais vous engager comme chanteuse. Ouais, je cherche tout le temps de nouveaux talents, etc. Je savais pas que...
1972, année de ma naissance. Hein, voilà, il se trouve que voilà, premier succès populaire avec cette musique du Grand Blond avec une chaussure noire, un film d'Yves Robert. Il ne faut pas avoir peur du ridicule. Il y eut des rires, bien sûr, à la grande larme, j'allais dire, à la grande table. Mais évidemment, quelques larmes également, comme celle du chef cuisinier Pierre Gagnère avec Michel Brasse, très émouvante. Celles aussi qu'ont fait couler ces grands témoins de l'histoire passés à l'émission, parmi lesquels l'écrivain israélien Aaron Appelfeld et le cinéaste cambodgien Riti Pan.
Ani Kotev et Ta Chaim Sheli.
J'écris l'histoire de ma vie. Une vie longue maintenant. À travers mon enfance. Cette enfance qui s'est passée en Europe. Elle me remplit jusqu'à ce jour. Ma vie en tant qu'enfant en Europe. Cette enfance, elle a été horrible, atroce. C'était les années de guerre m'ont nourri de poison et de choses mauvaises. Mais parce que j'étais un enfant, ça semble comme être une histoire, une légende. J'espérais chaque jour, j'étais près de l'eau, j'attendais que mes parents reviennent. Je disais, si je vais voir un cheval blanc, ça sera le symbole, ça sera le signal que mes parents vont revenir. Et c'est ainsi que je ne les ai pas quittés. Ils n'ont pas été séparés de moi. Ils étaient avec moi alors, comme ils sont avec moi aujourd'hui. Eh bien, si l'on peut dire ainsi, je rends grâce à Dieu qu'il ne m'ait pas pris l'enfant qui est en moi. Et que je ne sois pas devenu quelqu'un de cynique, quelqu'un qui voit la vie sans aucun sens.
Il y a peut-être une différence avec vos films précédents, Rétipane, c'est que là, ce récit est à la première personne. Vous dites « je » et vous parlez de votre famille. Alors dans l'élimination, vous racontiez déjà votre famille, votre enfance. Vous aviez 13 ans quand le 17 avril 1975, les Khmers Rouges sont entrés dans Phnom Penh. Mais c'est quand même la première fois dans un film que vous faites que vous dites « je ».
Peut-être il fallait le temps. Il fallait le temps pour avoir une maturité, avoir la possibilité de dire « je » sans être banal. Je crois que le travail sur ce, le sujet comme un crime de masse, un génocide, on peut pas s'enchaîner comme ça. Je crois qu'il faut qu'on vienne toujours ou qu'on revienne, et si c'est nécessaire, premièrement. Et même si on, quand on doit revenir, il faut que ça soit chaque fois une proposition artistique nouvelle aussi, et non pas une répétition de ce qu'on fait déjà. Et bon, voilà, Lanzmann a mis 10 ans pour faire un choix, et c'est une vraie proposition cinématographique. Ce n'est pas seulement, c'est pas un film comme un autre, quoi. C'est un film spécial. C'est un film qui a sa place dans, à la fois dans l'histoire du cinéma, à la fois aussi dans la manière dont on se bat contre l'effacement. Et je crois que cette forme artistique, c'est justement, c'est nous permettre de nous battre contre l'effacement, quoi. Quand un philosophe, je crois que c'est Dornano, qui disait que après Auschwitz, la poésie n'est plus possible. Moi, je n'ose pas le dire, le contredire il y a quelque temps, mais au bout de 20 ans, 25 ans de travail, je pense sincèrement que justement la poésie, l'art, doit lutter, c'est un meilleur moyen de lutter contre l'effacement.
Avec la voix unique de l'interprète Michel Zlotowski derrière Ron Appelfeld, compagnon de route de Toujours de la Grande Table, et Lorga Pous qui accompagnait la voix de Rétipane, Lorga Pous du dissident chinois Liao Yiwu, passé lui aussi à la Grande Table. Mais il faut dire aussi que la Grande Table, ça a été des rencontres entre des invités sur la base de nos intuitions et des correspondances, entre des démarches, des thèmes de travail, des œuvres. Certaines d'entre elles furent très réussies, comme la formidable discussion entre le chef 3 étoiles Alain Passard et le grand parfumeur Jean-Claude Héléna.
Le mot vert est utilisé en tant que couleur, mais le mot vert aussi désigne une odeur. Et il y a une correspondance qui marche assez bien. C'est-à-dire quand on fait sentir des odeurs dites vertes, les gens perçoivent le vert. Et c'est le seul endroit où ça marche. Sinon, ça ne marche pas.
Vous êtes d'accord, Alain Passard, vous, pour qui les couleurs sont extrêmement importantes?
Surtout dans cette cuisine légumière, hein, c'est une, je dirais presque la première source d'inspiration, ce visuel, hein, puisque c'est le premier des sens qui est sollicité à distance, comme ça, quand vous posez le regard sur un panier de légumes, ça procure, ça donne des envies, ouais, d'imbriquer tout ça, de faire une jolie jardinière, et on s'aperçoit aussi qu'il y a des familles. Moi, parfois, la couleur peut devenir un axe de création.
Vous êtes des artisans, mais vous êtes des artistes également, Alain Passard.
Ben, je pense aussi que ce qui nous rapproche, c'est qu'on aime la table.
Ça, c'est déjà la clé.
J'aime beaucoup ce que vous dites. Tout à l'heure, quand vous parliez des couleurs, les couleurs semblaient chez vous libérer des audaces. Mmh. C'est comme ça que je le verrais. Ouais. Et j'aimais bien cette idée que les couleurs vous libèrent des audaces. Et je me souviens d'une liberté que j'ai prise parce que, en sentant une fleur à La Réunion, il y avait une fleur qui sentait la farine. Et parce que cette fleur sentait la farine, en rentrant en France, j'ai créé un parfum qui sent la farine, qui s'appelle Bois Farine.
Laquelle? Le froment? Quelle farine?
La farine de froment, oui, ouais. La farine de froment. Et alors, j'avais une petite indication naturelle qui faisait que, d'un seul coup, c'est puisqu'une fleur peut sentir la farine, alors un parfum peut sentir la farine.
Ouais, c'est beau.
Et voilà, libéré, et à la fin, ça a donné un parfum. Mais alors, voilà, c'est des audaces comme ça qui arrivent. Alors, des fois, c'est une odeur, des fois, c'est un mot, juste un mot qui...
Et le sarrasin, j'adore ce parfum chaud du blé noir.
Oui, c'est très bon.
Ça sent bon quand vous passez auprès d'une crêperie, ça, avec le beurre salé.
Mais ce qu'il y a, c'est que la sauce ne prend pas toujours. Et alors, le producteur traverse des grands moments de solitude, comme par exemple face au Grand Prix d'Angoulême, le dessinateur de bande dessinée Willem, que j'avais invité avec la jeune Pénélope Bagieux. Vous dessinez depuis toute petite, Pénélope Bagieux ? Oui, c'est une vocation pour vous.
Mais comme tous les enfants, dessiner. Hein, je pense. Mais parfois, on arrête de dessiner quand on grandit, puis il y a des enfants qui continuent à dessiner, puis après, qui font le vœu un peu fou d'en faire un métier, mais... Je pense qu'on dessine tous depuis qu'on est tout petit.
Oui, alors, pas sûr. Moi, hein, personnellement, oui. Mais Willem.
Mais si.
Oui, bien sûr. Oui.
Willem, c'est pareil. C'était, oui, de toute façon, c'était une évidence. Vous avez dessiné depuis toujours et vous alliez devenir. On ne devient quand même pas dessinateur de presse comme ça. On choisit de dessiner, de croquer le monde et d'être chroniqueur de son temps quand même.
Oui, je suis bon qu'à ça.
Est-ce que dans les deux cas, vous considérez que vous avez une approche journalistique, l'un et l'autre?
Moi, Willem. oui, sûrement. Oui, je tiens une carte de presse.
Ce serait quoi, une approche journalistique par le dessin?
Bon, je ne fais pas de... je suis plutôt commentateur que investigateur.
Mais bon, un commentateur sans mots, quasi sans mots quand même. C'est oui, avant tout le dessin qui parle.
Oui, bien sûr, je peux faire le dessin sans mots aussi. Mais bon, c'est pas toujours possible.
Pénélope. Et oui, la demi-heure peut être longue dans ces cas-là. La Grande Table, ça a aussi été des voyages en France et dans le monde. Entre 2010 et 2015, nous sommes partis aux quatre coins du monde pour aller voir de plus près ces pays qui traversaient des temps historiques. Jérusalem, Beyrouth, Alger, Dakar, New York, Athènes, Bucarest, Sarajevo et d'autres encore.
Mais c'est toute la France qui écoute d'Haïti dans
France Culture. Hey, hey.
Oh, hey. Radio Bagué Frontière, mais Haïti.
Il est un peu plus de midi à Paris, un peu plus de 6 heures en Haïti, où nous sommes dans le cadre de ces 24 heures de France Culture exceptionnelle. Alors la Grande Table se trouve en direct de l'hôtel Le Plaza, en plein centre de Port-au-Prince, l'un des seuls bâtiments de la ville encore véritablement debout, tout près du Champ de Mars, juste en face, tout près du palais présidentiel. Et nous sommes avec nos invités. Il y a une semaine, après une nouvelle journée de manifestation dans le pays au cri de « Dégage », le président Ben Ali s'enfuyait, prenant tout le monde de court, à commencer par les manifestants eux-mêmes. Aujourd'hui, ce qui domine, c'est encore bien sûr l'euphorie de la liberté retrouvée, même si on sent poindre quelque peu d'incertitude quant à l'avenir. Autrement dit, ce qui se joue maintenant est fondamental. Au-delà de la fin d'un long règne de 23 ans sans partage, ce que nous sommes venus voir ici, nous Français, au cœur de la Révolution, c'est bien ce qu'annonce cette extraordinaire mouvement populaire. Bonjour à tous et bienvenue à la Grande Table, une Grande Table exceptionnelle jusqu'à 14h en direct de Moscou pour ces 24 heures de Russie, de France Culture à l'occasion de l'élection présidentielle du 4 mars prochain. Une Grande Table en direct du joli salon Tolstoï de l'hôtel Métropole, en face du Bolchoï, à deux pas de la place Rouge, autant dire en plein centre-ville. Une Grande Table entièrement dressée aujourd'hui par Ségolène Darny et réalisée aujourd'hui par Béatrice Richer. Après cette minute de silence en hommage aux victimes des attentats meurtriers de vendredi soir, il va falloir parler et trouver le ton juste, car oui, entre vendredi midi et aujourd'hui même heure, le ton a changé, la voix n'est plus tout à fait la même et on vit avec un sentiment irréel et amer d'un avant et d'un après. Un sentiment qui nous impose, outre cette minute de silence, de bousculer le cours de nos émissions. Vous l'avez entendu tout le week-end déjà, France Culture a fait son possible pour vous informer, laisser s'exprimer les réactions et les émotions, tenter de décrypter l'inexplicable, de comprendre ce qui a pu conduire une jeunesse avide de mort à tirer à l'arme lourde sur une autre jeunesse éprise de vie. 132 personnes ont été tuées vendredi soir dans Paris. Nous sommes dans le même état d'hébétude que vous qui nous écoutez et pourtant il va falloir continuer à faire notre travail et au mieux dans des circonstances où l'émotion prend le pas sur la réflexion, dans ce temps où la pensée est en suspension et où l'intelligence des événements fait encore défaut. Dans cet état de sidération que vient d'analyser Adèle Van Rett il y a 2 heures dans son émission, il nous faut reprendre doucement nos esprits, faire en sorte que la culture, notre culture, ce qui nous fonde et nous unit, ne meure pas, ce qui marquerait la victoire des tueurs. Il nous faut reprendre nos esprits tout en tenant compte de cette brutale entrée dans une nouvelle ère qui nous chavire tous.
No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why. You had to go out of my door and leave just like you did before. I know I said that I was sure, but rich men can't imagine poor. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told.
Et oui, c'est aussi le monde, parfois, qui brutalement est venu jusqu'à nous. De la musique, il y en eut beaucoup et de tous les genres, comme Assaf Avidan, rencontré un jour de janvier 2015 quand nous avions déjà besoin de baume au cœur. Combien de chefs d'orchestre, d'instrumentistes, de chanteurs lyriques qui sont venus parler de leur art et parfois faire des liens inattendus pour les oreilles profanes que nous étions. Je me souviens avec émotion, par exemple, du premier contre-ténor venu à la grande table, Andreas Scholl, à qui je suis particulièrement redevable de m'avoir fait découvrir l'univers baroque grâce à son merveilleux disque consacré à Henry Purcell que je croyais jusque-là réservé aux musicologues.
C'est certainement pas la musique pour les musicologues. C'est un répertoire facilement à comprendre. Si on entend le Cold Genius de King Arthur, c'est presque la musique pop. Et c'est clair que dans son époque, Purcell était populaire. C'est un compositeur populaire qui arrivait à toucher le public avec ses compositions.
Alors vous parliez de l'air du génie du froid qui est extrait de King Arthur, de Henry Purcell. C'est l'un des 2 airs d'opéra que vous avez choisi d'enregistrer. Drôle de choix, on l'écoute d'abord.
Années 80, les chaînes de télévision ont coupé l'émission pendant la nuit. Et le dernier morceau, c'est un truc musical, c'était Klaus Nomi. Alors, fin d'émission, on a écouté toujours Klaus Nomi avec le Cold Genius. Et moi, j'étais teenager, je connais rien de la musique baroque. Je pensais, mais c'est un super morceau, mais qu'est-ce que c'est? C'est un homme, c'est une femme qui chante, c'est un peu bizarre, mais c'est après, comme étudiant à Bâle, que j'ai entendu des extraits de King Arthur, et j'ai dit, ah, ça c'est le morceau que je connais, c'est musique baroque aussi, et c'est Henry Purcell. Alors c'était une surprise pour moi, et j'ai pensé, ah, oui, lui il a chanté comme contre-ténor, et lui a trouvé que c'est vraiment la musique pop, c'est lui qui a dit, ah, ça, c'est musique baroque, mais c'est une qualité universelle. Il y a une bonne raison de Klaus Nomi pour choisir ce morceau-là. Et j'ai pensé, pourquoi je ne le fais pas aussi?
Bon, enfin, il y en aurait des centaines d'autres parmi les quelques 1300 invités reçus en 6 années. Mais il a fallu faire des choix et piocher parmi les meilleurs. Certaines sont réécoutables et podcastables, profitez-en. D'autres ne le sont plus, nous vous les offrons à nouveau. Ces moments rares et précieux comme ce live inoubliable de la chanteuse américaine Liz McComb.
Friendless, heartaches seem endless. I'm a long way from home. walking, walking and wondering, is there anywhere for me to roam? Nothing hidden, oh Lord, can be. Everything I know you can see. Beauty and this courage, Lord, look down on me. Now, Lord, how much longer? How much longer can it be? How many more days of sorrow? How many more nights of misery?
Un grand et chaleureux merci à Lucie Aubourg et Philippe Baudouin avec qui j'ai concocté cette petite anthologie sonore. Ça n'est pas fini, on se retrouve après le journal d'Antoine Mercier.